Imaginons un instant détenir le pouvoir absolu. Le genre de pouvoir qui est capable de faire s'effondrer des empires millénaires, de rayer des armées entières de la carte.
Ouais, une puissance totale, quoi.
C'est ça. Le truc qui modifie de fond en comble l'écosystème de la planète. Et la question qu'on peut se poser, c'est, avec une telle puissance entre les mains, quelle serait la première arme qu'on utiliserait ?
La force de frappe, l'épée, la terreur géopolitique, logiquement.
Oui, c'est ce qui vient à l'esprit. Sauf que, il y a près de 2700 ans, un texte ancien a prophétisé l'arrivée d'un tel souverain, un roi avec un impact mondial. Mais, et c'est là que ça devient dingue, ce texte lui attribue une arme complètement inattendue.
Une arme de vulnérabilité, en fait.
Exactement, une douceur absolue. Et franchement, décortiquons tout ça aujourd'hui parce que c'est fascinant. Notre mission pour cette exploration, c'est de comprendre ce fameux premier chant du serviteur.
Oui, qu'on trouve au chapitre 42 du livre d'Ésaïe.
Voilà. Et pour ça, on va s'appuyer sur les travaux et l'analyse minutieuse du docteur Robert Chisholm. L'idée, c'est d'extraire de ses recherches de quoi comprendre qui est cette figure mystérieuse, comment elle opère.
Et surtout, pourquoi elle utilise une méthode aussi particulière en décalage total avec son époque.
C'est clair. Mais pour que cette prophétie prenne tout son sens, il faut d'abord poser le décor. Et ce décor, c'est un véritable traumatisme national doublé d'une espèce de machine à remonter le temps.
C'est vraiment le mot. Il faut s'imaginer l'époque. Historiquement, le livre d'Ésaïe, il se divise en deux grandes ambiances très, très distinctes.
Deux mondes complètement différents même.
Ouais, totalement. Les 39 premiers chapitres, ils sont ancrés au 8e siècle avant notre ère. On y suit le prophète Ésaïe qui, du coup, alerte les rois de Jérusalem sur les dangers géopolitiques imminents.
La menace de l'Empire assyrien, principalement, non ?
Absolument, une menace écrasante. Mais il y a un tournant majeur avec le roi Ézéchias. Ce roi échappe de justesse à une invasion assyrienne, y survit à une maladie mortelle, mais...
Mais il prend un peu trop la confiance, c'est ça ?
C'est exactement ça. Pris d'un excès d'orgueil, il fait une erreur stratégique monumentale. Il accueille des émissaires d'une puissance montante, Babylone. Et il leur fait visiter ses coffres, ses armureries, il étale toutes ses richesses.
En gros, il a donné le plan de sa propre maison avec l'emplacement du coffre-fort à des futurs cambrioleurs.
Tu résumes parfaitement la situation. Et là, le prophète Ésaïe intervient et prononce un jugement qui fait froid dans le dos. Il annonce qu'un jour, ces mêmes Babyloniens reviendront et qu'ils pilleront absolument tout.
Ouch.
Et qu'ils déporteront la population en exil à Babylone, c'est bien ça.
Ouais. Et c'est la fin de la première partie du livre, sur une note d'un pessimisme abyssal.
Et c'est là que le texte devient chronologiquement mais hallucinant. Parce que dès le chapitre 40, le décor change d'un coup. Le texte dit « consolez, consolez mon peuple ».
Et le ton est radicalement différent, oui.
Soudainement, le texte s'adresse à des gens qui sont déjà en exil, en fait. Jérusalem est en ruine, le temple est détruit.
Et psychologiquement, à cette époque, perdre son temple et sa terre, ça voulait dire que ton dieu avait été vaincu par les dieux ennemis. C'est le désespoir total. Voilà. Et le livre s'adresse directement à eux, avec une intimité incroyable, pour promettre une délivrance. Ce qui pose quand même un immense problème logique.
Tu penses à la chronologie ?
Oui. Comment un prophète du 8e siècle peut-il parler de manière aussi détaillée à une génération qui vivra l'exil des siècles plus tard ? En lisant les débats là-dessus, ça m'a fait penser à un grand-père très âgé qui se sait condamné.
D'accord, je vois l'image.
Il sait qu'il ne verra jamais sa petite-fille grandir, alors il écrit une longue lettre pleine de conseils et il met sur l'enveloppe « À n'ouvrir que le jour de ton mariage ».
C'est une super analogie.
Il se projette mentalement dans un futur qu'il ne connaîtra pas pour consoler quelqu'un qui n'est même pas encore né.
C'est une excellente façon de comprendre la thèse de notre source. Il faut savoir qu'une grande partie du monde académique, avec des chercheurs comme Bernard Dumême, a résolu ce problème autrement, en affirmant qu'il y a eu plusieurs auteurs.
Ah, le fameux Deutéro-Ésaïe, c'est ça ?
Exactement. Ils estiment qu'un auteur anonyme a écrit cette deuxième partie directement pendant l'exil. Mais l'analyse du docteur Chisholm, conçue aujourd'hui, défend une position minoritaire mais fascinante.
Laquelle ?
Celle où le prophète originel aurait été saisi par une inspiration divine qui l'a littéralement propulsé dans l'avenir. Il ne parle pas au sujet de l'exil, il parle aux exilés.
Et le message central de cette lettre intemporelle, c'est l'arrivée d'un libérateur, ce fameux serviteur.
Voilà, un serviteur qui va complètement renverser la situation.
Et c'est là que le grand jeu de devinette commence. Le texte s'adresse à des captifs désespérés et dit, en substance, « Regardez mon serviteur ». La première question qui vient, c'est « qui est ce gars ?»
Et on a un suspect très concret dans les chapitres précédents.
Oui, un empereur perse.
Oui, le roi Cyrus le Grand. Parce que, soyons logiques, dans l'Antiquité, quand on avait besoin d'être libéré de Babylone, on espérait l'arrivée d'une armée encore plus violente.
Une grosse puissance de feu, quoi.
C'est ça. Et Cyrus est mentionné explicitement dans le texte. Il vient de l'Est, c'est un guerrier redoutable. Historiquement, il a bien fait tomber Babylone en 539 avant notre ère.
Et il a permis aux exilés de rentrer chez eux.
Voilà, il a été un instrument politique majeur.
Le problème, c'est que quand on arrive au chapitre 42 et qu'on lit le profil de ce fameux serviteur, ça ne colle pas du tout avec un général sanguinaire comme Cyrus.
Ah non, pas du tout. Cyrus écrasait ses ennemis alors que le serviteur décrit ici est d'une douceur troublante.
Donc on raye Cyrus de la liste pour ce rôle précis. Mais il y a un deuxième suspect évident. Dans le chapitre 41, Dieu s'adresse directement à la nation d'Israël en exil, en l'appelant texto « mon serviteur ».
Oui, la nation elle-même.
Donc logiquement, on pourrait conclure que la nation est son propre libérateur, non ?
C'est hyper tentant comme piste. Mais le texte la torpille assez vite, en fait. Cet Israël national, qu'on appelle souvent Jacob dans ses passages, il est décrit avec des termes vraiment accablants.
Du genre ?
Il est qualifié d'aveugle, de sourd. Et le texte rappelle que son emprisonnement à Babylone est la conséquence de ses propres échecs moraux.
Ah ouais, donc un serviteur aussi faillible, qui a lui-même besoin d'être sauvé de sa propre cécité spirituelle, ne peut pas être le serviteur parfait héroïque du chapitre 42.
Exactement.
Attends, là je dois vraiment faire une pause parce que je suis complètement perdu face à une contradiction grammaticale.
Ah bon ? Laquelle ?
Si on garde ce qui est écrit au chapitre 49, le deuxième chant, le texte appelle clairement le serviteur Israël.
Oui.
Mais dans la phrase qui suit, il est précisé que la mission de ce serviteur, c'est de ramener la nation d'Israël à Dieu.
C'est le grand paradoxe, oui.
C'est absurde. C'est comme essayer de se soulever du sol en tirant très fort sur ses propres lacets.
J'adore l'image. Ce qui est fascinant ici, c'est que ce paradoxe nous oblige à creuser. Et la solution nous vient de spécialistes comme John Oswalt, repris par notre source.
Et quelle est cette solution ?
L'erreur, en fait, c'est de lire le mot « Israël » uniquement comme une étiquette politique ou ethnique. Dans ce contexte précis, Israël devient une fonction, un idéal absolu.
Une fonction ? C'est-à-dire ?
Imagine qu'une nation entière ait reçu une vocation magnifique, un vrai idéal de justice, mais qu'elle ait totalement échoué à l'incarner.
D'accord, je vois.
Ce que le texte avance, c'est qu'un individu, une personne unique, va émerger et accomplir à lui seul ce que la nation entière n'a pas réussi à faire. Il incarne l'Israël idéal.
Oh, waouh ! Donc parce qu'il réussit là où la nation historique a échoué, il devient légitime pour sauver cette même nation.
Exactement. Le serviteur n'est ni un empereur perse, ni la nation entière, mais un individu qui endosse cette vocation parfaite.
Voici où ça devient vraiment intéressant. L'idéal qui vient secourir la réalité défaillante. Et la mission première de cet idéal incarné, le texte dit que c'est d'établir la justice sur la terre.
Et là, il faut vraiment qu'on se détache de notre vision moderne de la justice.
C'est clair. Aujourd'hui, on pense à un tribunal, à des juges, à des avocats. Mais dans le Proche-Orient ancien, qui est chargé de la justice ?
C'est le roi, de manière exclusive. De la Mésopotamie à l'Égypte, le concept de justice n'était pas du tout séparé du pouvoir exécutif absolu. Les rois babyloniens ou assyriens devaient justifier leur légitimité auprès des dieux.
Enfin, le dieu soleil Shamash qui exigeait cette justice.
Voilà, quand un roi comme Assaradon d'Assyrie montait sur le trône, il se proclamait champion de la justice.
Mais leur méthode pour établir cette justice, c'était pas vraiment des réunions pacifiques.
Ah non, pas vraiment. Ils établissaient l'ordre en écrasant littéralement le crâne de leurs ennemis, en écorchant vifs les rebelles. La justice passait par la terreur absolue.
Et même dans la tradition biblique, l'attente est martiale. Les psaumes royaux, comme le 45 ou le 72, montrent que le roi idéal doit écraser l'oppresseur.
Oui, ça reste une action de force.
Et c'est pour ça que la description de notre serviteur est un choc culturel total. On s'attend à un roi qui arrive avec une épée flamboyante. Et à la place, on nous décrit quelqu'un qui ne crie pas dans les rues, qui ne brisera pas le roseau froissé.
Et qui n'éteindra pas la mèche qui faiblit. C'est d'une douceur presque déconcertante.
Surtout quand on comprend ce que veulent dire ces métaphores. Le roseau froissé, c'est pas juste de la botanique, hein ?
Non, en poésie ancienne, ça désigne des êtres humains marginalisés. Les personnes broyées par la vie, les pauvres, ceux qui sont à une respiration de la mort.
Donc ce roi, qui détient pourtant le pouvoir absolu, refuse d'utiliser sa force pour écraser ce qui est déjà vulnérable.
C'est ça. Sa puissance s'exprime par une retenue parfaite.
C'est une inversion totale de la pyramide du pouvoir. Au lieu d'un souverain intouchable qui écrase tout, on a un roi qui descend tout en bas pour jouer le rôle de bouclier. Il absorbe l'injustice pour protéger les plus faibles.
Et agir comme ça dans un monde aussi brutal, bah, ça a un coût énorme. D'ailleurs, l'analyse linguistique de la source souligne un détail hyper subtil. Le texte dit que ce serviteur ne va pas crier.
Et en hébreu, ce mot a un sens particulier.
Oui, le verbe utilisé, c'est tsaak. Ce n'est pas le cri de commandement d'un général. Dans la loi biblique, tsaak, c'est le hurlement de désespoir d'une victime qu'on agresse ou qu'on opprime.
Attends, vraiment ? Donc en disant qu'il ne va pas pousser ce cri de victime, le texte suggère qu'il va se retrouver dans une situation où il devrait hurler de douleur.
C'est exactement ça. C'est une préfiguration très délicate de ses propres souffrances, qui seront détaillées plus loin, au chapitre 53. Il encaisse la violence du monde, sans rendre les coups, sans même hurler.
Waouh ! Mais si ce roi instaure une justice basée sur la douceur et le sacrifice plutôt que sur la terreur, quel est l'impact de son règne ? On pourrait se dire que ça donne juste de bonnes lois sociales.
Et pourtant, l'impact va bien au-delà de la société humaine.
C'est ce qu'on voit en reliant ce texte au chapitre 11 d'Ésaïe, non ? Le fameux « rejeton de Jessé ». Cette justice parfaite, elle crée une véritable onde de choc cosmique.
Oui, l'imagerie de la transformation de la nature. Le loup qui habite avec l'agneau, la panthère avec le chevreau.
Le lion qui mange de la paille et un bébé qui joue avec un serpent venimeux. Bon, honnêtement, j'ai toujours lu ça comme une fable métaphorique.
Tu n'étais pas le seul, rassure-toi.
Je me disais, bon, le loup et l'agneau, c'est juste des nations ennemies, genre Babylone et Jérusalem qui signent un traité de paix, quoi.
C'était aussi l'ancienne vision du docteur Chisholm. Mais si on relie cela à la vue d'ensemble, il a radicalement changé d'avis. Il a mis ce texte en perspective avec le livre de Job.
Ah oui, les chapitres sur les animaux sauvages.
Exactement. Job 38 et 39. Dieu y décrit la violence inhérente de la chaîne alimentaire. Et pour les anciens, ce chaos naturel n'est pas indépendant de nous.
Il y a un lien direct.
Oui, un lien viscéral entre la corruption morale de l'humanité et la fracture physique de la création. Quand l'injustice règne, la terre elle-même s'empoisonne, elle devient hostile.
Je vois totalement la logique. Le conflit entre le prédateur et la proie, c'est juste le reflet de l'oppression dans la société humaine.
Exactement.
Donc l'injustice, c'est pas seulement un problème juridique, c'est une vraie maladie écologique et cosmique que le serviteur vient guérir.
Et du coup, la pacification de la nature n'est plus une métaphore. C'est la conséquence littérale d'un univers restauré. Le monde physique est débarrassé de toute prédation.
C'est d'une ampleur vertigineuse. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Qui bénéficie de cette restauration globale? Est-ce que c'est réservé à la seule nation d'Israël?
Eh bien, la réponse est dans les titres du serviteur. Il est appelé à être une alliance pour le peuple et une lumière pour les nations. Par métonymie, il est le médiateur par lequel l'alliance devient réalité.
Mais ce mot « le peuple », on est d'accord qu'historiquement ça désigne Israël?
C'était aussi ce que pensait notre auteur au départ. Mais là encore, son opinion a évolué en regardant le contexte. Juste avant ce verset, Dieu se présente comme le Créateur qui donne le souffle à tous les habitants de la terre.
Ah, donc le contexte est universel.
Et la famille humaine tout entière.
Mais pourquoi l'humanité entière a soudainement besoin d'une nouvelle alliance? Qu'est-ce qui s'est cassé à l'échelle mondiale?
Pour ça, il faut remonter à la Genèse, à l'alliance de Noé.
L'alliance perpétuelle avec toutes les nations après le déluge, c'est ça?
Oui. Et la règle d'or de ce contrat, c'était le respect absolu de la vie humaine. Or, selon les chapitres 24 et 26 d'Ésaïe, les nations ont brisé cette alliance originelle.
En polluant la terre par leurs guerres et leurs effusions de sang.
Voilà. L'humanité entière est donc moralement souillée et captive de ses propres ténèbres.
Et c'est là que le serviteur entre en jeu. Le texte dit que sa mission, c'est d'ouvrir les yeux des aveugles et de faire sortir les prisonniers des cachots. Et c'est là qu'il faut préciser un truc sur les prisons de l'Antiquité, parce que c'est pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Non, rien à voir. À l'époque, on n'enfermait pas les meurtriers en prison.
Ils étaient exécutés, tout simplement.
Exactement. Ces cachots obscurs étaient remplis par les victimes d'une injustice systémique, des gens endettés enfermés par des créanciers, des opprimés, des prisonniers politiques.
Donc, libérer ces prisonniers, c'est vraiment s'attaquer aux abus de pouvoir et démanteler l'oppression.
C'est tout à fait ça.
Et l'aboutissement de tout ça, c'est l'effondrement des frontières géopolitiques. Je repense à cette image du chapitre 19 d'Ésaïe évoquée par la source, où on voit l'Assyrie et l'Égypte s'unir.
Oui, un passage incroyable.
Il faut s'imaginer le truc. La Syrie, c'était l'empire de la terreur, et l'Égypte, la puissance esclavagiste absolue. Et là, le texte décrit une route où ces deux superpuissances voyagent ensemble et adorent Dieu main dans la main, avec Israël.
L'URSS et les États-Unis qui construiraient une cathédrale ensemble en pleine guerre froide, pour reprendre une image parlante. C'est l'effondrement des empires par la réconciliation.
C'est spectaculaire. Et en guise de synthèse, on peut dire que l'objectif du serviteur, c'est pas juste de sauver des individus d'une punition.
Non, son but, c'est de ramener l'humanité entière, qui est fascinée par ses accomplissements, à l'adoration du seul vrai Dieu, en restaurant l'idéal originel. Il utilise sa propre souffrance pour désamorcer la violence humaine de l'intérieur.
Et ça soulève une question hyper importante pour nous aujourd'hui.
Laquelle ?
Si cet idéal prophétique biblique du pouvoir absolu, la capacité de vaincre des empires et de transformer l'écosystème, se manifeste non pas par l'écrasement des faibles, mais par une douceur extrême, une douceur qui refuse de briser un roseau froissé.
Oui, une vulnérabilité assumée.
Cela nous amène à nous demander comment est-ce que ça devrait redéfinir la manière dont on perçoit, dont on choisit et dont on évalue nos propres leaders aujourd'hui.
Et même la façon dont on conçoit nos systèmes de justice, en fait, c'est une remise en question totale.
Totalement. C'est une pensée provocante qu'on va laisser mûrir. Merci d'avoir plongé dans ces sources si denses avec autant de clarté. Gardez cette curiosité intacte pour explorer les fondations de notre monde et on se retrouve très vite pour une prochaine analyse approfondie.